استمع إلى بودكاست رام قوتك من قلبك برعاية رام على تطبيق أبل بودكاست، سبوتيفاي أو أي منصة صوتية أخرى. في هذه الرحلة نكتشف مع بعض خلال شهر رمضان الكريم شلون نكون بقمة عطائنا المعنوي، الفكري والإنساني، ونستمد من هذا الشهر الكريم مصدر قوتنا الداخلية والخارجية.
Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Pour nous narrer l'histoire de l'univers, vous pourrez compter sur la verve de Willy Brahami, astrophysicien, ami, ancien prof, conférencier, pilote, bref, un touche-à-tout cosmique, et de ses années d'expérience de vulgarisateur pour vous emmener au-delà des possibles grâce à l'imaginaire. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Poussière d'étoiles, toujours bien sûr en compagnie de Willy. Salut Willy.
Salut Maxence, bonjour tout le monde.
Alors ça y est, nous entrons dans le vif du sujet, de la grande thématique que nous avons introduite dans l'épisode précédent, à savoir l'apparition de la vie, du complexe. Et pour comprendre comment la vie sur Terre, la seule que nous connaissons, est apparue, eh bien, il faut nous pencher sur notre arbre généalogique cosmique. On a souvent l'habitude de dire que les étoiles sont nos mères à tous. Mais qu'en est-il de notre branche paternelle? Eh bien, on a de grandes raisons de penser que cette branche paternelle, ce sont les trous noirs. Mais quel rapport entre les trous noirs et l'apparition de la vie? Eh bien, ces études plus récentes pointent toutes vers les trous noirs, ces astres que pourtant, on pense à tort, ces ogres cosmiques destructeurs seraient en fait des formidables catalyseurs, les chaînons manquants. Ils forment avec les étoiles un tandem chaotique, mais du chaos émergea le complexe. J'ajouterai que depuis quelques jours, nous avons enfin une photo complète de notre portrait de famille. Vous l'avez sans doute vu, les scientifiques ont enfin réussi à obtenir une image du trou noir massif au centre de la Voie lactée. Pour vous imaginer la prouesse technique, ça reviendrait à regarder un grain de riz qui serait à la surface de la Lune.
Oui, c'est vrai, on vient de vivre deux moments extraordinaires ces derniers temps. C'est la deuxième fois qu'on fait deux photos de trous noirs. Alors, c'est quand même étonnant de dire qu'on fait des photos de trous noirs, sachant qu'un trou noir est invisible par définition. On va en reparler un tout petit peu. Alors, on va parler du trou noir qui est au centre de notre galaxie, qui s'appelle Sagittaire A étoile. C'est un truc extraordinaire qu'on avait vu son influence sur des étoiles. Autour du centre, on voyait des étoiles tourner à des très très grandes vitesses, et puis avec les lois de Kepler, c'est des lois très simples qui permettent de déterminer des masses, on a vu qu'il existait à un endroit des étoiles qui tournaient autour d'un centre, d'un truc qui avait l'air d'être énorme, énorme, énormissime, à peu près 4 millions de masses solaires, 4 millions de fois la masse du Soleil, vous imaginez le truc. Et pourtant, on ne voyait rien. Donc un trou noir, on ne voit rien parce qu'aucune lumière ne sort. C'est extraordinaire d'avoir fait une photo d'un truc comme ça. En fait, ce qu'on voit, c'est l'environnement du trou noir. On voit les disques d'accrétion, les quantités de matière qui se précipitent dedans, qui tournent autour à des vitesses relativistes, enfin des vitesses extrêmement folles. Et mais le deuxième exploit, c'est qu'on a fait la même chose sur le centre d'une autre galaxie. Et on a réussi à faire une photo du trou noir géant qui existait au centre de cette autre galaxie, qui était 1500 fois plus gros que notre trou noir personnel, celui de notre galaxie, qui a une influence totale sur l'ensemble des 300 milliards d'étoiles que peuple notre galaxie. Et nous, on est une malheureuse étoile au fin fond, à peu près à 25 000 années-lumière de ce centre-là, dans un bras quelconque. Et c'est vrai que le trou noir a une image de destruction, de violence inouïe, de chaos total. Pourtant, il participe un petit peu à l'histoire, à notre histoire et à l'histoire de l'univers.
Depuis quelques années, les scientifiques sont allés sonder le cosmos. Alors à l'aide de télescopes, de méthodes de spectrographie, ils vont analyser la composition des nuages de gaz à quelques années-lumière, au centre de notre Voie lactée, ou jusqu'aux galaxies les plus lointaines. L'idée derrière tout ça, c'était de regarder quelle était la composition différente en fonction des galaxies, en fonction de là où on est. Parce que, assez intuitivement, on peut supposer que la composition d'un milieu va varier en fonction de la zone dans laquelle on se situe. Une région a pu être exposée à plus de rayonnement, un développement plus grand d'étoiles, etc., etc. Et pourtant, le fer, le soufre, le carbone, l'oxygène, le silicium, le magnésium, l'azote, tous ces éléments dont la vie sur Terre dépend de l'assemblage de ces éléments primordiaux, semblent être présents en concentration similaire, et ce, partout où nous regardons. Dans les galaxies, dans notre système solaire, ou même dans le vide intergalactique. C'est extraordinaire parce que ça signifie que les conditions qui règnent aux confins du cosmos sont similaires à celles autour de notre planète. Et que les ingrédients nécessaires à l'apparition de la vie sur Terre sont aussi présents dans les mêmes proportions dans les régions les plus éloignées. Mais après cet étonnement vient ces deux questions. D'où proviennent ces composants tout d'abord? Vous en avez une idée et Willy va nous expliquer davantage. Et puis, quelle est cette force si puissante qui est capable de répartir la matière de manière homogène dans tout l'univers?
Là, on va rentrer un petit peu dans un détail. Vous savez tous que toute la matière qui existe est faite d'atomes. Et ces atomes, c'est très très simple. Les atomes sont composés d'un noyau et d'électrons qui tournent autour. Alors, le plus simple, c'est l'atome d'hydrogène avec un proton et un électron qui tourne autour. L'élément le suivant, c'est un noyau avec deux protons, mais deux petits neutrons en plus, puis deux électrons. Puis troisième élément, le troisième atome, il y aura trois protons et trois électrons. Après, quatre protons, quatre électrons, mais toujours avec des neutrons supplémentaires. Donc finalement, dans la matière, sur Terre par exemple, ou même ailleurs dans l'espace, il existe à peu près 92 éléments totalement différents. Alors ce qu'il y a de dingue, c'est que chaque élément, quand on le soumet à une petite, disons, une décharge électrique ou une énergie un petit peu, eh bien, l'atome s'excite. Il s'excite, il prend de l'énergie et la rejette. Et en la rejetant, il envoie des lumières bien spéciales. C'est ce qu'on appelle la spectroscopie. C'est ce que vous avez vu lorsque la lumière passe dans un angle de verre, dans un prisme, et ça fait un magnifique arc-en-ciel. Et en regardant bien, si on regarde bien cet arc-en-ciel tout développé du rouge au violet en passant par toutes les couleurs, on va voir des petites raies noires. Ce sont des petites raies. Et ça ressemble un peu à des codes-barres. Et on a découvert que tout simplement, tous les éléments qui existent dans la nature, chaque élément a un code-barre qui lui est propre et unique. Donc il suffit de regarder n'importe où, n'importe comment, dès qu'un objet émet de la lumière ou en diffuse, eh bien, en regardant cette lumière à travers un petit prisme ou à travers un spectroscope beaucoup plus élaboré, on peut savoir exactement de quoi est composé l'élément qui envoie de la lumière. Et là, la stupeur est immense. On s'aperçoit que les étoiles qui sont extrêmement loin, même au fin fond de l'univers à des milliers, voire des millions d'années-lumière, on s'aperçoit que la répartition de la matière est quasiment la même partout. Il y a une immense majorité d'hydrogène parce que c'est l'élément le plus simple. Puis après, il y a un peu d'hélium. Et puis après, tout le reste. Et surtout, on s'aperçoit qu'il existe des éléments bien particuliers qui sont répartis à peu près partout. Par exemple, le carbone est un élément assez courant. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote sont des éléments que l'on retrouve quasiment partout. Donc c'est déjà un truc assez étonnant d'être capable de voir au fin fond de l'univers que finalement, toute la matière est à peu près assez semblable à notre environnement. Mais d'où viennent ces éléments? C'est ça qui est assez dingue. C'est que, vous vous rappelez, quand on a parlé de la naissance de l'univers, il y a eu une période assez catastrophique, chaotique. Pendant 300 000 ans à peu près, la température était telle que rien, il existe des protons, des neutrons, des électrons, des photons, des tas de trucs, mais rien ne s'assemblait tellement la chaleur était immense. Puis peu à peu, vu l'expansion de l'univers, vu la notion d'inflation, rappelez-vous, on en a parlé déjà dans d'autres émissions, l'univers était en train de grandir d'une façon extrêmement grande. Et en grandissant, eh bien cet espace atténua la température et la chaleur qui y régnait. Donc au bout d'à peu près 300 000 ans, la température était suffisamment basse pour que les électrons commencent à tourner autour des protons et pour fabriquer l'élément numéro 1, l'atome d'hydrogène. Puis, il existait aussi le deuxième élément, l'hélium, deux protons, deux neutrons, deux électrons. Voilà, c'était une immense majorité. Donc voilà, et l'univers continuait à grandir. Il y avait de moins en moins de chaleur. Et là, c'était la catastrophe. Plus rien ne pouvait apparaître puisqu'il faisait de plus en plus frais, entre guillemets. Et là, il n'y avait plus assez de chaleur pour coller entre les protons, les neutrons, les électrons pour fabriquer des éléments de plus en plus lourds. Le fer, le carbone, le magnésium, tout ce que vous voulez, tout ce qui existe. Bref, imaginez une toile d'araignée faite de filaments plus ou moins épais, avec des croisements, des choses comme ça. Mais là, il faisait froid, il commençait à faire froid, et rien ne pouvait apparaître. Et bien d'un seul coup, la gravitation s'est mise à rentrer en marche et a commencé à faire effondrer ces nuages de telle manière que localement, ces nuages pouvaient s'effondrer. En s'effondrant, augmenter la pression, donc la température, donc les chocs entre les objets qui étaient présents. Donc, d'un seul coup, l'usine étoile était en train de se remettre en marche pour refabriquer d'autres éléments de plus en plus lourds. Mais ces étoiles étaient mortelles. À un moment donné, il n'y avait plus assez d'énergie pour tout ça. Et badaboum, l'étoile explosait et elle rejetait dans l'espace tous les éléments qu'elle avait fabriqués. Donc voilà, ces usines fabriquées sans arrêt, c'était un chaos extraordinaire. J'ai parlé un peu de tout ça d'une façon assez rapide, mais en fait, ce n'était pas des étoiles localisées. Ça a commencé, disons, plutôt par des immenses nuages de gaz qui s'effondraient pour fabriquer plutôt les galaxies. Puis après, au sein des galaxies, ça se re-effondrait de plus en plus en petites étoiles, en première génération d'étoiles qui fabriquaient les éléments, puis une deuxième génération d'étoiles, puis une troisième, puisqu'à chaque fois, ça naissait, ça mourait. Et tout ça, au milieu, n'oublions pas qu'il existait ce fameux trou noir géant, parce qu'au moment de l'effondrement, pour fabriquer cette galaxie, il existait une zone qui était extrêmement dense, qui s'est effondrée au-delà d'une certaine masse. Ça s'effondre terriblement en trou noir. Et c'est pour ça qu'au sein de chaque galaxie, il y a un énorme trou noir qui, lui, fait partie de la création de la galaxie. Et en même temps, ça pulse un petit peu tout ce gaz qui aurait dû se distribuer d'une façon un peu anarchique. Et là, finalement, le trou noir a réussi, d'une certaine manière, à participer à homogénéiser tout ça, à organiser un petit peu tout ça, à faire partie de l'organisation, donc de l'apparition du un peu plus complexe.
Et effectivement, comme l'a dit Willy, ces nuages de gaz autour des trous noirs qui forment ce disque d'accrétion tournent à une très très grande vitesse. Et tous ces frottements vont générer des températures extrêmement hautes. Et de cette espèce de plasma ionisé va émerger un champ magnétique, puisque les ions sont donc des particules chargées, et donc ces mouvements de rotation, de convection, vont créer un champ magnétique, comme une espèce d'énorme bobine. En fait, le trou noir fonctionne un petit peu comme un aimant, et son disque d'accrétion autour fonctionne un petit peu comme une grosse bobine. Quand vous faites tourner un aimant dans une bobine, vous créez un champ magnétique et un courant. Et bien c'est très simplifié ce qui se passe. L'énergie va s'accumuler jusqu'à atteindre un niveau critique. Et à ce niveau critique, une fois dépassé, eh bien, c'est ce qu'on appelle le point de rupture, ce qui va provoquer, comme le nom l'indique, une rupture d'une ligne de champ magnétique. Et lors de cette rupture, eh bien, une partie de la matière qui est dans ce disque d'accrétion va alors être projetée dans l'espace. Imaginez par exemple un disque vinyle, et puis au milieu de ce vinyle, vous avez deux jets de matière qui seraient expulsés verticalement en haut et en bas. Ces jets vont donc répandre matière, éléments lourds à travers l'espace, et ce sur des dizaines de milliers, voire des millions d'années-lumière de distance. C'est le cas par exemple du trou noir supermassif de la galaxie M83. En son centre, le trou noir supermassif, celui-là même qui a été photographié pour la première fois en 2019, et bien sur ces mêmes photos, mais prises d'un peu plus loin, on observe ce jet de matière. Ce jet de matière, si vous voulez le voir, il est disponible sur nos réseaux sociaux, sur le post dédié à cet épisode. Ce jet a une masse approximative de 6,5 masses solaires. Et tenez-vous bien, ces jets sont expulsés jusqu'à des distances de 5000 années-lumière. Et tout ça à une vitesse extrêmement rapide, proche de celle de la lumière. De quoi ensemencer l'univers des éléments constitutifs du vivant. Mais 5000 années-lumière, c'est beaucoup et en même temps, c'est peu sur l'échelle de l'univers. Alors, pour répartir la matière dans l'ensemble de l'univers, alors déjà l'univers était beaucoup plus petit à l'époque, mais il faut quand même qu'il y ait une force encore plus grande, des trous noirs qui soient gigantesques, qui soient capables d'expulser la matière sur des millions d'années-lumière. Et bien depuis quelques années, en observant toujours des astres plus loin, et donc plus loin dans le temps, les scientifiques ont observé, ont découvert des trous noirs des premiers instants de l'univers, à seulement 700 millions d'années après le Big Bang. Eh bien, ceux-ci sont sans commune mesure avec les trous noirs supermassifs actuels. C'est ce qu'on appelle les trous noirs primordiaux, dont la masse de certains dépasse celle de notre galaxie tout entière. Alors, comment est-ce que de tels astres, si gargantuesques, ont pu se former en l'espace de si peu de temps.
C'est un peu compliqué à expliquer d'une façon extrêmement simple, mais on va essayer de trouver des petites images qui permettent un peu de voir. On peut avoir des trous noirs de quelques masses solaires, à peine 2, 3 masses solaires, 4 masses solaires, 5 masses solaires, 10 masses solaires. Là, ce sont des tout petits trous noirs. Il en existe de beaucoup plus petits, de la taille d'une particule éventuellement. Et ça, c'est une théorie, il n'y a rien de sûr. Si, par hasard, l'effondrement est supérieur à la pression fabriquée à l'intérieur, eh bien l'effondrement va continuer sans arrêt. Sans arrêt, l'effondrement se fait. Ça veut dire que la matière s'effondre vers un point qu'on appellerait une singularité. Pour que notre Terre devienne un trou noir, il faudrait que je l'écrase pour qu'elle soit de l'ordre de quelques centimètres. Or, au début de l'univers, 700 millions d'années après, il existait à un moment donné des immenses quantités de matière, mais qui s'effondraient, mais d'une manière beaucoup plus violente qu'un trou noir classique, comme je viens d'expliquer. On parle de millions, de milliards de masses stellaires. Et là, d'un seul coup, elle s'effondre spontanément, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas, à un moment donné, il n'y a même pas création d'étoiles, c'est un effondrement tout simple. Tout ça, cet effondrement des énormes masses, des énormes trous noirs, disons primordiaux, va contribuer beaucoup plus à une sorte de répartition de la matière. Encore une fois, à cette époque-là, c'est déjà plus ou moins préparé pour que plus tard apparaisse un ordre beaucoup plus fin pour arriver après au complexe tel qu'on peut l'imaginer, comme la vie, voilà.
De là, donc, vous comprenez mieux peut-être l'influence de ces trous noirs supermassifs que l'on retrouve actuellement pratiquement dans chaque centre de galaxie. Et il semble que ceci, en plus de jouer un rôle à la base dans la distribution de la matière, joue également un rôle dans la structuration des galaxies, et ce, dès le début, non seulement par leur force gravitationnelle, mais également on s'est aperçu que leur phase de repos et leur phase d'activité correspondaient aux phases de création intense, ou au contraire, à une diminution d'apparition de nouvelles étoiles. Alors comment est-ce que c'est rendu possible? Eh bien, comparé à ce qu'on pourrait penser, ce sont les gaz froids qui donnent naissance à des étoiles, et non des gaz chauds. Parce qu'en fait, les gaz chauds ont tendance, comme n'importe quel gaz, si vous augmentez la température d'un gaz, il va se dilater parce que la pression augmente. Eh bien, les gaz interstellaires, c'est pareil. S'il est trop chaud, le nuage va se dilater et cette pression va compenser les effets de gravité, et donc va provoquer la fragmentation du nuage et va l'empêcher de s'effondrer sur lui-même. Comme on l'a dit plus tôt, les trous noirs, grâce à leur énorme disque d'accrétion, ils expulsent de la matière, ils expulsent de l'énergie, du rayonnement. Et tous ces éléments vont, à la manière de vagues, venir réchauffer les gaz environnants au sein de la galaxie qui l'entoure. Et donc en réchauffant ces gaz, eh bien, ils limitent la formation d'étoiles. Et sans ce nouvel apport d'énergie, bien la matière serait toujours en train de se refroidir et donc formerait toujours de plus en plus d'étoiles, de plus en plus d'étoiles. Les galaxies seraient alors comme d'énormes chandelles qui s'embraseraient en l'espace de quelques millions d'années puis mourraient à court de gaz. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que trop grosses étoiles, vous le savez, quand elles meurent, elles explosent en supernova. Et ces supernovas, eh bien, elles sont très dangereuses parce que si une planète se trouve sur son passage, elle est exposée au rayonnement et il y a de fortes chances que toute vie y soit réduite à néant. Ainsi, les trous noirs permettent donc de créer des régions moins exposées au rayonnement et donc plus propices à la vie. Au terme de ce voyage, vous commencez à reconstituer un petit peu l'histoire, bien que très incomplète, bien sûr, de notre univers. Et c'est le cas de le dire, tous les astres semblaient être alignés pour que le complexe émerge. Au tout début, d'abord, l'univers est dense, comprimé, sans atomes, que des particules. Et pendant un court instant, la matière s'effondre sur elle-même en créant des trous noirs supermassifs directement. L'expansion de l'univers va se poursuivre, les premiers atomes apparaissent, les premiers nuages de gaz apparaissent, mais les trous noirs qui sont déjà présents vont créer les premières perturbations gravitationnelles qui vont permettre de voir naître la première génération d'étoiles. Mais c'est pas encore idéal. Comme il s'agit d'étoiles géantes, eh bien, ces galaxies se consument très très vite dans l'espace de quelques millions d'années. Mais elles permirent de créer les premiers éléments lourds en leur cœur. C'est une véritable usine à éléments lourds, comme l'a dit Willy. On trouve tout ce que l'on veut, du carbone, de l'oxygène, de l'azote, etc. Et puis ces étoiles, comme elles ont toutes à peu près la même durée de vie et qu'elles se sont créées plus ou moins au même moment, eh bien, ces étoiles arrivent toutes à peu près en même temps dans leur fin de vie. Vers 2,5 milliards d'années précisément après le Big Bang, elle meurt plus ou moins toutes en même temps dans une mort explosive où tous ces éléments lourds, qui ont été créés en leur cœur, vont être eux-mêmes dispersés à leur tour par les trous noirs, par le phénomène qu'on vous a expliqué de ces gènes matières, sur des milliers, voire des millions d'années-lumière. Et donc ce sont l'action combinée de ces premières générations d'étoiles et de ces trous noirs primordiaux qui a permis de complexifier et d'homogénéiser la composition de l'univers. Et puis l'apport d'énergie de ces trous noirs vont limiter la création des étoiles et permettre à une nouvelle génération d'étoiles plus complexe, plus petite, avec des durées de vie plus longues et un univers moins soumis aux aléas des cataclysmes issus des supernovas.
Il faut imaginer la soupe que ça pouvait représenter à ce moment-là. Nous, on habite une région qui est vraiment peinard. Heureusement, on est dans un bras de la galaxie assez loin de tout chaos énorme. Mais d'une manière générale, c'est plutôt le chaos qui existe à peu près partout. Sauf entre les galaxies où il existe un vide quand même relativement important, mais au sein d'une galaxie, il existe des endroits où le chaos est quasi total, des énormes nuages froids, des énormes nuages chauds. Et dans ces endroits-là, bon, bien sûr, il y a des endroits qui sont totalement invivables, invivables pour le complexe et pour la vie, par exemple, invivables, mais ce sont des zones de création, c'est-à-dire que des gaz chauds, puis des gaz froids, tout ça, ça va fabriquer des pressions plus ou moins énormes, donc automatiquement une petite poussée à droite, une petite poussée à gauche, on comprime un petit peu un coin là, on décomprime un petit peu un coin là, bref, tout ça, c'est un jeu extraordinaire, mais c'est un chaos innommable. Dans la Bible, on appelait ça tohu-bohu, le chaos. Tout était en constante ébullition. Et donc, ces effondrements, ces fragmentations, ces compressions, ces dilatations, c'était, disons, les moteurs des créations des lieux où la première phase, les premiers éléments complexes apparaissent. Tous les atomes, c'est-à-dire les briques qui vont fabriquer bien plus tard, le complexe beaucoup plus fin, des molécules, puis des planètes, puis des choses comme ça. Enfin bref, on en reparlera. Voilà le moteur, disons, chaotique de l'apparition des premiers éléments complexes, la conséquence des mouvements dans ces immenses nuages.
Vous l'aurez compris, les conditions favorables d'apparition de la vie sont issues de forces, de puissances cosmiques inimaginables, et dans ce qui semblait en tout cas être le chaos le plus total. Il y a encore 10 ou 15 ans, personne n'imaginait qu'il puisse y avoir un rapport entre trous noirs et apparition de la vie. Une histoire qui pourrait bien s'être répétée en d'innombrables endroits de l'univers. C'est là que s'arrête notre escapade au fin fond du cosmos pour aujourd'hui. On espère comme d'habitude que ça vous a plu avec Oudi. Et comme d'habitude, je vous invite vraiment à laisser une note, un commentaire. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez que l'on aborde dans un hors-série ou dans une série d'épisodes des sujets en particulier. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, petite nouveauté, où à chaque épisode, nous ferons maintenant un post dédié avec des images complémentaires liées à cet épisode en question. Merci à vous et à bientôt pour un prochain épisode de Poussière d'étoiles.